Vous écoutez France Culture.
Réplique, peut-on encore aimer l'Europe avec Sylvie Goulard et Jean-Pierre Chevènement. Dans la dernière livraison du magazine Causeur, le philosophe Pierre Manant fait ce constat mélancolique. Voilà de nombreuses années que l'Europe, loin de se réunir effectivement, se diverse ou se fragmente. Sous l'échafaudage bruxellois ou francfortois, les nations qui, un temps, avaient fait un véritable effort pour aller l'une vers l'autre, sont rentrées chez elles. Chaque nation, la crise aidant, dresse l'inventaire des maux que l'Europe n'a pas pu guérir. L'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement et la députée européenne Sylvie Goulard viennent l'un et l'autre de consacrer un livre à l'Europe. L'essai de Jean-Pierre Chevènement s'intitule 1914-2014 « L'Europe sortie de l'histoire ?» et celui de Sylvie Goulard « Europe, amour ?» ou chambre à part. À mes deux invités, je demanderai donc, pour commencer, s'ils partagent la mélancolie du philosophe Sylvie Goulard.
Bonjour. Je ne partage pas entièrement la mélancolie, je suis plus en colère que mélancolique, parce que j'ai l'impression que ce phénomène n'est pas un phénomène qui était fatal. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que M. Manant ne met en cause que Bruxelles et Francfort, comme si les nations européennes n'étaient pas dans le monde et dans un monde qui change profondément. Pour moi, la vraie raison de la difficulté, c'est que nous avons une conception de la souveraineté ou de la nation qui ne tient pas assez compte de l'extraordinaire et très rapide évolution du monde au cours des deux dernières décennies. Donc, à la fois, je peux partager une partie de son constat, mais je trouve justement sa mélancolie et cette espèce d'abattement, ce fatalisme, particulièrement préjudiciable à nos enfants, à notre avenir. Je ne m'en contente pas.
Mais comment se fait-il, selon vous, précisément, qu'on assiste à cette dispersion, à cette fragmentation? Et comment se fait-il que les citoyens des nations européennes eux-mêmes vivent l'Europe comme une instance extérieure, supérieure, et non comme une instance représentative de ce qu'ils sont?
Alors d'abord, je crois que le repli dans des périodes de souffrance sociale et économique n'est pas quelque chose d'extrêmement étonnant. On peut le regretter, mais c'est un phénomène qui est assez humain, qui est assez banal. En revanche, là où pour ma part j'estime qu'il y a une véritable responsabilité de ceux qui ont gouverné et de ceux qui ont tenu, je dirais, le débat en tant que commentateur, en tant qu'éducateur, en tant que philosophe, c'est qu'est-ce que nous avons fait dans les dernières décennies alors que nous voyions monter le vieillissement de nos populations, l'émergence d'un certain nombre de nouvelles puissances. Qu'est-ce que nous avons fait pour nous poser des questions, y compris d'ailleurs sur nos propres mots? Je crois qu'il ne faut pas simplement aller chercher à Bruxelles ou à Francfort des boucs émissaires ou à Shanghai ou à Washington. Qu'est-ce que nous voulons en tant que peuples européens? Avons-nous fait vivre, c'est un des thèmes de mon livre, par exemple le Parlement européen? Est-ce que nous avons tout fait pour que, avec tous ces défauts que je ne nie pas, il soit un lieu de démocratie vivante ou l'avons-nous foulé au pied? Si nous l'avons foulé au pied, ce qui est mon sentiment, nous ne devons pas non plus nous étonner qu'il n'y ait pas un extraordinaire enthousiasme des citoyens vis-à-vis de l'Europe.
Jean-Pierre Chevènement.
Pour ma part, je partage le point de vue de Pierre Manant. La raison de ce désamour est simple. On a bâti l'Europe comme un mythe salvateur. Ceux qui se souviennent des conditions dans lesquelles a été approuvé le traité de Maastricht savent qu'on a identifié l'Europe à ce que j'appelle les trois P. La prospérité, la puissance et la paix. La prospérité, l'Europe allait gonfler les voiles de la croissance, réduire le chômage, la paix. L'Europe était une promesse de paix. D'ailleurs, on identifiait la paix régnant depuis 1945 à l'Europe, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Cette paix a résulté pour l'essentiel de l'équilibre entre les deux superpuissances et de l'arme thermonucléaire. Enfin, l'Europe allait nous donner la puissance. L'euro allait concurrencer le dollar, voire s'y substituer. Rien de tout cela n'est au rendez-vous. Nous voyons un chômage de masse, une stagnation économique prolongée, sans perspective, une désindustrialisation continue, le déclin de l'Europe. Sa voix est inaudible, ou en tout cas ne porte pas dans les grandes affaires du monde. Je pourrais parler aussi bien du Proche-Orient que de l'Afrique, où elle est tragiquement absente. Seule la France est confrontée à cet immense désastre humanitaire. Donc, voilà, quand on fait le bilan, il faut juger l'Europe à ses résultats. Le bilan est ce que je viens de dire. Et j'ajoute que la démocratie non plus ne trouve pas son compte dans l'édifice, parce que la démocratie vit dans les nations, là où a lieu le débat, là où on s'entend à travers une langue commune. Il n'y a guère que la Suisse qui fasse exception, mais nous pourrons y revenir tout à l'heure. Et bien évidemment, l'Europe qu'on nous a construite est une Europe technocratique. Toutes ces institutions ne répondent devant aucun peuple. C'est une Europe dont, je rappelle, la Commission est censée définir l'intérêt général, ce qui est une curieuse définition de l'intérêt général. La Banque Centrale Européenne est indépendante, elle n'a qu'un but, hein, lutter contre l'inflation qui a quasiment disparu. Il y a une Cour de justice dont la jurisprudence s'étale sans aucune espèce de digue pour la contrarier. Il y a bien le Parlement européen, mais selon la Cour de Karlsruhe, ce n'est pas vraiment un Parlement, c'est la juxtaposition de la représentation de 30 peuples. En Europe, il y a une trentaine de peuples. Voilà. Et je pense qu'on a discrédité les nations à partir de 1945 pour camoufler la manière dont on allait construire l'Europe et qui est le vrai sujet du débat. Moi, plutôt que de parler de l'Europe, j'aimerais qu'on parle des modalités qu'on a choisies pour la construire.
Oui, mais Jean-Pierre Chevènement, restons-en au premier de vos trois P, la prospérité. Ne peut-on pas dire que pendant une certaine période, l'Europe a joué un rôle très positif et qu'elle a permis aussi bien le miracle allemand que le miracle italien, et la France a trouvé dans l'Europe des moyens d'assurer sa propre expansion, les Trente Glorieuses, la politique agricole commune. Donc ce premier P, il est difficile, même si nous sommes dans une période de crise, de l'écarter d'un revers de main.
Alors, je voudrais distinguer deux périodes. Il y a la période qui correspond aux premières années de la construction européenne, disons le traité de Rome. Suppression des barrières douanières à l'intérieur du marché commun, mais maintien de tarifs extérieurs communs. Et ces 30 années correspondent à un rattrapage historique par rapport aux États-Unis. Après les années de guerre, il est normal que l'Europe se reconstruise. Et ça s'arrête en 1973. Les règles du jeu sont modifiées. On passe au système de la flottation des monnaies, les accords de la Jamaïque, les chocs pétroliers. À ce moment-là, l'Europe ralentit. Et on va voir que plus on s'avance, plus la croissance diminue. Elle est devenue quasiment nulle. Aujourd'hui, notre production industrielle est à peu près au niveau où elle était en autour de l'an 2000, elle n'a pratiquement pas bougé. Et nous n'avons même pas retrouvé le niveau d'avant la crise. Donc, il y a deux périodes pour répondre à votre question. Et je dirais que plus on s'est avancé dans la construction de cette Europe technocratique, régie par des idées simples, hein, d'une part la concurrence libre et non faussée, qui n'est rien d'autre que la croyance en l'efficience des marchés, dogme central de l'ultralibéralisme, enfin du néolibéralisme, hein, la lutte contre l'inflation, comme s'il n'y avait pas d'autre objectif, comme si la croissance, la lutte contre le chômage ne pouvait pas être aussi une des missions de la Banque centrale. Alors, suppression des déficits budgétaires, le traité budgétaire européen, le TSCG, les budgets sont asservis à une trajectoire qui résulte de ce traité qui vise à supprimer tous les déficits dans un temps assez rapide. Et tout est mis en pilotage automatique. La politique n'a plus sa place. Or, la politique, traditionnellement, c'était le carburant démocratique, c'était les nations. Et au lieu de faire l'Europe à partir des nations et sur quelques objectifs précis, parce que moi je défends l'idée européenne, l'idée d'un resserrement des solidarités entre les nations européennes, mais on aurait pu se mettre d'accord sur des choses très simples, la monnaie, l'industrie, l'énergie, la défense, la politique extérieure, point barre. Au lieu de cela, on réglemente la teneur du chocolat en cacao. Ou la couleur des bérets.
Sylvie Goulard.
Oui, lorsque j'entends ce genre d'argumentation, d'abord j'ai envie de dire aux auditeurs que si on fait un bilan, il faut faire un vrai bilan. Le bilan des nations, le bilan des politiques, le bilan de l'Europe. Là, on est en train de tout mélanger. Le traité de Maastricht est un traité qui laissait aux États membres, alors c'est peut-être une erreur, mais c'est un fait, la responsabilité des politiques économiques et sociales à l'intérieur de la zone monétaire. La responsabilité d'un certain nombre d'éléments décisifs pour la prospérité sont dans les mains des gouvernements des États membres, qui avaient également la charge de se surveiller mutuellement. Ils ne l'ont pas bien fait, ça c'est une deuxième chose. Mais si on s'en tient au premier élément, quand l'éducation en France va mal, qu'il y a tant de jeunes qui sont laissés sur le bord de la route, quand la formation professionnelle française coûte 32 milliards à la nation sans que nous ayons des jeunes bien formés, tout ça, ce n'est pas la faute à l'Europe. Ce n'est pas la faute à l'Europe. Il y avait...
Personne ne le dit, ça.
Personne ne le dit. Pourquoi ? Parce que la classe politique nationale n'a pas
envie... Non, mais personne ne dit que c'est la faute de l'Europe.
Ah ben, écoutez, on a entendu à l'instant... On a entendu à l'instant...
Le naufrage de l'éducation nationale en France a des causes endogènes.
Oui, non, mais la prospérité est un tout. La prospérité, il y a des éléments qui viennent de décisions européennes qui peuvent être justes ou erronées, mais il y a également... Et encore une fois, le système était bâti d'une telle manière que nous n'avons pas décidé de franchir une étape fédérale en 1992. Donc une partie de la responsabilité reste dans les États. La meilleure preuve, c'est qu'il y a à l'intérieur de la zone euro des pays qui s'en sortent bien mieux que d'autres, qui ont des performances meilleures que d'autres, parce qu'ils ont pris un certain nombre de décisions nationales qui étaient plus adaptées à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, tout ceci ne se fait pas indépendamment du reste du monde. Et que, par exemple, M. Chevènement l'a redit, la décision des Américains d'abandonner la convertibilité du dollar en or est une décision qui a été prise en dehors de l'Europe et qui a eu un impact. Et l'une des raisons pour lesquelles on a voulu faire l'euro, au-delà des raisons politiques qui sont primordiales, c'était aussi d'éviter des différences de change entre pays qui ont des échanges extrêmement importants, etc. Donc je crois qu'il faut remettre tout ça dans une juste perspective, encore une fois. Les nations ont leur part de responsabilité, les autorités européennes en ont une autre. Personnellement, j'en ai un petit peu assez de la manière dont on présente la concurrence libre et non faussée, etc., comme des choses qui nous auraient été imposées. Tous les traités qui s'appliquent en ce moment ont été négociés par des gouvernements français, certains auxquels vous avez appartenu, Monsieur Chevènement, et ont été ratifiés par le Parlement français auquel vous avez appartenu. Le budget qui a été adopté l'année dernière, que personnellement je n'ai pas voté pour l'Union européenne, a été accepté par le président de la République française à l'unanimité. Il y a énormément de domaines, personnellement je le déplore, mais dans lesquels on décide encore à l'unanimité. Alors qu'est-ce que ça veut dire de venir pleurnicher après coup quand on a pris des engagements vis-à-vis des partenaires? Qu'est-ce que ça veut dire quand on a été dans la minorité de penser que la France n'est pas engagée? Pour ma part, je suis française, je considère que mon pays a pris un certain nombre d'engagements, juste ou pas juste, et que, par exemple, nous sommes dans la zone euro et qu'il faut s'efforcer de la faire vivre le mieux possible. Pourquoi la Banque centrale a un mandat étroit? Mais parce qu'il vaut beaucoup mieux qu'une autorité indépendante travaille dans le cadre d'un mandat étroit qui a encore une fois été validé dans des traités. Si nous ne sommes pas d'accord avec ces traités, M. Chevènement, mais vous faites partie des rares personnes qui vont en Allemagne. Mais moi, j'aimerais bien les voir en Allemagne, ceux qui, en France, devant des publics français, franco-français, viennent nous expliquer que tout est simple. Allons là-bas et essayons de vendre aux Allemands qui ont une conception de la monnaie qui est effectivement différente de la nôtre et qui a inspiré les traités, d'en avoir une autre. Mais j'en ai assez de tous ces prêcheurs d'Europe en France ou en Italie ou en Allemagne qui ne sortent pas des frontières et qui donc font abstraction du fait que pour que l'euro vive, eh bien il faut qu'il vive avec les autres. Personnellement, je suis favorable à un mandat étroit de la Banque centrale. Je pense que ne pas faire de la dette de manière excessive, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, c'est pour éviter que nos enfants aient à payer les coûts de fonctionnement d'un État qui est mal géré en ce moment en France par les Français.
Jean-Pierre Chevènement.
Alors, j'écoute Madame Sylvie Goulard toujours avec intérêt. en même temps avec un certain amusement, parce qu'elle a choisi une posture qui est celle de la colère, de l'insatisfaction. Elle en a assez de tous ceux qui pleurnichent, et elle se présente elle-même comme le parangon optimiste de ces vertueux européens, grâce auxquels tout irait bien s'il n'y avait pas, finalement, les peuples qui constatent, par exemple, le chômage, la précarité, les inégalités croissantes, qui sont quand même très largement le résultat d'une politique économique. Vous ne m'avez pas entendu, Madame Goulard, incriminer les directives de la Commission européenne en matière d'éducation ou de formation professionnelle. Parce que, en effet, si nous constatons un certain nombre de défauts, de graves dysfonctionnements, une crise de l'école, cela tient très largement à des facteurs internes et peut-être aussi à la crise de confiance que la France éprouve à l'égard d'elle-même et qui retentissent sur la solidité de ses services publics. Par exemple, il est évident que l'école n'est plus soutenue comme elle l'était jadis par une haute idée, par une idée exigeante de la République. Donc il y a un certain affaissement que je constate avec tristesse comme vous et dont l'origine est dans la façon dont la France se voit mais qui n'est pas sans rapport avec une certaine conception de l'Europe. Parce qu'on a prétendu construire l'Europe en substitut des nations. Et c'est la thèse que je développe dans mon livre, 1914-2014. Je montre que, au fond, on va commémorer 1914 pour décrédibiliser un peu plus, incriminer les nations européennes, comme si elles avaient été à l'origine de cette guerre. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas les nations qui ont provoqué la guerre. Et même, je dirais, ce ne sont même pas les nationalismes, sauf peut-être le pan-germanisme, dans la mesure où il irriguait les cerveaux des chefs du grand état-major général allemand, hein, qui ont déclenché une guerre préventive. Mais enfin, on fait des nations le bouc émissaire des deux catastrophes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle, les deux guerres mondiales, dont je cherche l'origine dans la modification de la hiérarchie des puissances liées elles-mêmes au développement des deux mondialisations libérales, que je mets en rapport, la mondialisation d'avant 14 sous égide britannique et la mondialisation américaine après 1945. Donc je pense qu'il y a une décrédibilisation des nations qui a des effets sur le fonctionnement de l'école. Je sais que Alain Finkielkraut y est très sensible, mais il faut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est très profond. Et par conséquent, ma critique s'exerce sur une conception de l'Europe qu'on a prétendu édifier sur une table rase, comme s'il ne s'était rien passé avant 1945, les nations étant rendues responsables de tout le mal. Et comme si, au fond, entre 843, date du partage de l'Empire de Charlemagne, et 1945, il n'y avait eu qu'une longue parenthèse avant l'édification de ce monde merveilleux qu'on nous a promis à Maastricht, traité contre lequel je me suis élevé. Peut-être l'avez-vous oublié, vous étiez trop jeune, mais j'ai été un de ceux qui ont combattu le traité de Maastricht en critiquant en particulier le mandat très étroit donné à la Banque Centrale Européenne Indépendante, copié sur le modèle de la Bundesbank allemande, qui pouvait peut-être convenir à un pays comme l'Allemagne, mais qui ne convenait pas à une Europe qui, à l'époque, était faite d'une douzaine de nations, d'une quinzaine de nations. Donc, je pense qu'il faudrait quand même dire que nous sommes fiers de l'Europe, mais avec ces nations, fiers de l'Europe italienne, l'Italie de la Renaissance, de la splendeur espagnole, des grandes découvertes des rois navigateurs portugais, du Parlement britannique, de la philosophie de Locke. Nous sommes fiers des Lumières françaises, de la Révolution française, de la conception du citoyen que nous avons quand même donné.
De la philosophie allemande et de la musique allemande.
Et bien entendu, de la musique allemande, de la philosophie allemande, la science allemande et les immenses qualités du peuple allemand, hein, que je connais assez bien, que je serai le dernier à vouloir nier. Mais moi, l'Europe, pour moi, c'est tout cela. Et il ne faut pas faire l'Europe contre les nations, ou même simplement en dehors d'elle, comme on a voulu le faire avec Jean Monnet, qui a mis tout de suite les nations en lisière en donnant à la haute autorité devenue Commission européenne le pouvoir de proposition législative, réglementaire, et en faisant que les représentants des gouvernants ne puissent plus que acquiescer ou au mieux freiner. Bref, c'est une conception institutionnelle très particulière. On fait confiance au marché, donc c'est un économicisme. Hein. On fait confiance aux États-Unis d'Amérique, parce qu'en matière de défense et de politique extérieure, à l'époque de la guerre froide, on s'en remet aux États-Unis, à travers l'OTAN. Mais ce qui est curieux, c'est qu'après la guerre froide, après l'effondrement de l'URSS, ben, l'OTAN continue, c'est-à-dire que nous sommes toujours plus ou moins sous tutelle. Hein. Donc c'est cette Europe-là que je critique. Je pense que nous pouvons en faire une autre, une Europe européenne, une Europe qui existera par elle-même dans le monde du 21e siècle que domineront la Chine, bien évidemment, et encore les États-Unis.
Alors, justement, sur cette question des nations, Sylvie Goulard, du rapport entre l'Europe et les nations. L'Europe, selon vous, enfin, comme le dit Jean-Pierre Chevènement, et comme j'ai peut-être tendance à le croire aussi, est-elle fondée, justement, sur cette espèce de criminalisation de l'idée nationale en raison des crimes, des degrés effroyables du XXe siècle?
Alors, je crois qu'il y a une part de vérité et il y a des choses qui, à mon avis, sont exagérées dans ce qui vient d'être dit. La part de vérité, c'est qu'il est vrai que la génération d'après-guerre, mais avec de très grandes nuances, d'un père fondateur à l'autre, se méfier du nationalisme, qui est la forme, comme vous le dites dans votre livre, en quelque sorte maladive de l'attachement à la nation, mais qui s'est produit. C'est-à-dire que ce phénomène, comment dirais-je, de mauvais développement d'une cellule qui peut être parfaitement bonne et légitime, a existé et a créé des millions de morts. Et personnellement, je tends à penser, mais non pas seulement en raison du recul historique et du temps que j'ai passé à lire les pères fondateurs, qu'il y a une part de vérité dans le fait que si vous insistez trop sur ce qui sépare les individus, vous finissez par les empêcher, ou les inciter en tout cas parfois à avoir des sentiments de supériorité. Le lien entre l'attachement à la nation et le nationalisme se produit, et il faut se méfier de ça. Même si ce n'est qu'une pathologie, c'est une pathologie suffisamment grave qui a fait suffisamment de morts pour qu'on le note. Deuxièmement, quand vous relisez des personnes comme Robert Schuman, il n'y avait pas de volonté de détruire les nations. Il n'y avait pas de volonté de détruire les nations. Il y a la volonté de s'enraciner dans les nations en construisant quelque chose en plus. Et c'est ce que nous avons longuement développé avec Mario Monti dans notre livre sur la démocratie, c'est qu'il ne nous paraît pas du tout impossible d'avoir des lieux, je dirais, d'appartenance locaux, régionaux, nationaux et européens. Et que pour prendre un certain nombre de décisions, et c'est là que je m'éloigne le plus de vous, Monsieur Chevènement, parce que je crois que sur le fond, on est assez d'accord, on est tous les deux profondément préoccupés par la disparition d'une voie européenne dans le monde et d'une voie française. Donc on souhaiterait que cette chose-là marche. Simplement, là, je vais me permettre de m'appuyer sur mon expérience de député européen et j'ai travaillé également 4 ans à la Commission européenne. Quand vous travaillez dans des équipes qui sont pluriculturelles, mais on est tout de suite rassuré, les nations ne vont pas disparaître. Les nations ne vont pas disparaître parce que des personnes font ensemble une loi qui est susceptible de s'appliquer à 330 millions d'individus qui sont dans la zone euro. Donc à la fois, il n'y a pas eu cette volonté de destruction. Il y a peut-être eu des personnes qui avaient vécu des choses suffisamment traumatisantes pour être très méfiants, mais il n'y a pas eu de volonté de destruction. Les institutions, comme vous les décrivez, M. Chevènement, je suis désolée, ne fonctionnent pas comme vous les décrivez. Il n'y a pas la commission toute puissante. La codécision, c'est quoi? Il n'y a aucune législation qui ne soit pas votée dans les mêmes termes, par les députés européens directement élus et les ministres qui sont issus du suffrage universel.
Sylvie Goulard, quand même, justement, le rapport que le citoyen d'une nation européenne a avec les institutions, avec le Parlement. Alors d'abord, un mot sur le XXe siècle. Jean-Pierre Chevènement cite une confidence dans son livre, c'est une confidence de Hitler à Rauschning, très intéressant, disant « l'idée de nation n'a aucun intérêt, je l'ai utilisée pour des raisons d'opportunité, laissons la nation aux démocrates et aux libéraux, moi, mon concept, c'est la race ». Bernanos, au même moment, enfin très tôt, décembre 1940, le chemin de la croix des armes, la guerre, cette guerre, j'en suis convaincu, c'est la guerre des races contre les nations. Voilà ce que dit Bernanos et Raymond Aron. Et je cite Raymond Aron parce que vous citez François Furet dans votre livre, qui est un disciple de Raymond Aron. Mais Raymond Aron était très sceptique vis-à-vis d'une Europe post-nationale. Et précisément, dans ses chroniques de guerre, il dit que l'enjeu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'existence même des nations européennes. Et il la résume ainsi, nation libre ou empire tyrannique, tel est le sens pour l'Europe de la guerre hitlérienne. Donc voilà, il ne s'agissait pas d'une apothéose du nationalisme, il s'agissait de défendre les nations contre un impérialisme raciste, du moins pour Raymond Aron, ce qui explique son attachement continu à l'idée nationale au sein même, disons, de l'Europe, précisément. Et aujourd'hui, on le voit bien, que la nation est l'habitacle naturel de la démocratie, parce que les décisions du Parlement européen, certes, il est élu, nous tombent dessus. Pour nous, le Parlement européen, c'est quoi qu'il fasse, une pièce du château au sens kafkaïen du terme. Et si un jour le Parlement européen va contre une décision de la France, du gouvernement français ou du Parlement français, notamment sur la politique migratoire, parce que cette question va se poser à tous les États européens, personne en France ne dira que c'est le degré supérieur de la démocratie.
Mais vous avez raison, nous sommes...
Tout le monde dira, mais c'est pas la démocratie, la démocratie c'est ici.
Nous sommes dans un processus, et ce processus peut prendre beaucoup de temps, et peut même échouer. Je n'ai pas, pas du tout le sentiment qu'on est dans un chemin pavé de roses. Ce que je dis simplement, c'est que, à mon sens, nous ne nous sommes pas donné les moyens par l'éducation, par le fait de prendre au sérieux nos institutions, de faire en sorte qu'elles marchent. Ce qu'on avait utilisé avec Mario Monti comme image, vous savez, c'est celle du diable dans Faust. Goethe dit que la marque du diable, c'est l'esprit de négation. Au moment même où nous disons vouloir faire un certain nombre de choses, nous insistons sur le fait qu'il y a un échelon qui est éternel et permanent. Moi, ce que je dis simplement, je me sens profondément française. J'ai le sentiment que tout le travail que je fournis à Bruxelles me permet de ne pas avoir à rougir par rapport à des gens qui sont patriotes à l'arrière, qui, eux, ne sortent jamais de leur trou franco-français. Simplement, il y a un moment où il faut se projeter dans l'avenir. Tous les textes que vous avez lus sont des textes qui datent de la moitié du XXe siècle. Moi, ce qui m'intéresse pour mes enfants, c'est quelle est la forme d'organisation politique, probablement nouvelle, donc difficile à mettre en place. Je vous l'accorde, ce n'est pas naturel, mais qui nous permettra de peser face à des pays émergents qui, je le rappelle quand même, on n'en a pas conscience dans le débat politique français. En 2050, il est probable qu'il n'y ait plus aucun État européen, pas même l'Allemagne, pas la France, dans le G8. Ce qui risque de se passer, c'est que les Européens soient simplement laissés de côté. Nous existerons, bien sûr, la France continuera
sortie
à exister.
Sortie de l'histoire, comme dit Jean-Pierre.
Exactement, Jeunement. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes largement d'accord.
Nous sommes déjà sortis de l'histoire.
Alors, si nous y sommes déjà, moi, je pense que les choses ne sont pas définitives. Je pense que l'Europe a encore des choses à dire et que l'Europe peut s'organiser de manière à ne pas sortir de l'histoire. Mais c'est une organisation différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Jean-Pierre Chevènement.
Oui, la question est de savoir comment on peut remettre l'Europe dans l'histoire. Parce que, après deux guerres mondiales et surtout après 70 ans de construction européenne qui a mis la charrue avant les bœufs, on doit aujourd'hui se poser la question de savoir comment l'Europe peut être remise de l'histoire comme acteur de l'histoire. Je suis frappé du contraste entre les nations émergentes, toutes animées d'un dynamisme conquérant. Je ne parle même pas de nationalisme. Quelquefois, on peut se poser la question quand on voit la Chine, le Brésil, l'Inde, le Vietnam et beaucoup d'autres. Toutes ces nations savent que l'avenir leur appartient. Et elles ont une confiance, une force qui est merveilleuse à certains égards. Et nous, nous regardons nos nations européennes qui, toutes, à l'exception peut-être de l'Allemagne, sont des nations flageolantes. Et nous devons nous poser la question de savoir comment reconstruire l'Europe sur des bases solides, à mon avis sur la base solide et claire de la nation dans laquelle vit la démocratie, parce que si on ne revient pas à quelques idées simples, on ne peut pas réussir. L'Europe est devenue une sorte de grand pétrin dont on a l'impression qu'on ne peut plus se sortir. Et voyez-vous, le livre que j'ai écrit, c'est une archéologie en quelque sorte de la religion européenne, ou plutôt de la religion européiste. Car je distingue l'idée européenne de l'européisme. Il y a cette religion qui fait que l'Europe est la solution à tout. Il y a une sorte de théodicée du mal. Évidemment, il y a du mal, mais on s'en sortirait mieux s'il y avait toujours plus d'Europe, toujours plus d'intégration. C'est comme l'URSS. Ça va pas, mais s'il y avait plus de socialisme, ça irait mieux. Hein. C'est comme la Yougoslavie. L'autogestion ne fonctionnait pas, mais s'il y avait plus d'autogestion, ce serait encore mieux.
Vous
L'Europe ne marche pas. S'il n'y avait plus d'Europe, ce serait encore...
C'est comme l'école. Voilà. La réforme ne marche pas, mais un peu plus de réforme, ça marchera mieux.
Exactement. Mais on peut rire un peu, parce que vous, ce que vous dites, c'est s'il y avait plus de nations, ça irait mieux.
Non, je ne dis pas ça, parce que je reprends à mon compte le concept de nation post-nationaliste qui a été forgé par un historien allemand, August Winkler. Hein, et je dis que naturellement, le nationalisme, il faut le combattre. Mais quand on fait un peu d'histoire, on se rend compte que ce n'est pas le nationalisme dans aucun pays... sauf peut-être le pro-germanisme en Allemagne, qui a provoqué cette bêtise qu'a été la Première Guerre mondiale, parce que l'Allemagne n'y avait pas du tout intérêt. L'Allemagne était le pays montant, et c'était le pays qui n'avait pas, au fond, intérêt à la guerre. Or, c'est elle qui l'a provoqué pour rompre un encerclement supposé par la France et par la Russie, avec une exagération de la menace russe, et qui aboutit à ce qu'on envahit pour commencer la France en violant la neutralité belge dont l'Angleterre était garante, alors que l'Allemagne ne souhaitait évidemment pas l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne. Que de bêtises. Alors cette lecture, elle n'est pas seulement la mienne. J'ai relu tout à fait par hasard Henry Kissinger dans Diplomatie il y a quelques semaines. Mais il fait exactement la même analyse que moi. Donc n'incriminons pas les nationalismes, parce que en réalité, il y a des phénomènes beaucoup plus profonds et il faut comprendre comment 1914 a été l'issue catastrophique de la première mondialisation, avec le souci d'éviter que la deuxième mondialisation, avec la bipolarité sino-américaine, donne un jour le même résultat. Et l'Europe, de ce point de vue-là, est importante, parce que si elle s'organise de la Méditerranée à la Russie, eh bien l'Europe peut peser d'un certain poids et peut-être amener à ce que les querelles d'hégémonie soient relativisées par, je dirais, une certaine expérience humaine, un certain humanisme du XXIe siècle, dont nous ne sommes certainement qu'au balbutiement. On parle de dialogue, des civilisations, des cultures, mais c'est un sujet très complexe sur lequel il me semble que nous n'avons pas beaucoup avancé.
Nous n'avons pas avancé, mais peut-être faudrait-il, pour avancer, que l'Europe elle-même s'assume comme une civilisation. Alors, revenons une seconde aux nations, Sylvie Goulard. Les nations européennes n'ont pas toujours été belliqueuses, ni a fortiori meurtrières. Pierre Manant, encore une fois, prend l'exemple de Montesquieu, grand théoricien de la Constitution anglaise. Il a confronté le modèle anglais au modèle français, il a montré les mérites de l'un et de l'autre, il a produit une théorie très favorable au régime anglais, et ça fonctionnait comme ça l'Europe, par une sorte d'émulation. Les Français ont admiré la science et l'université allemande. Dans l'Europe des rivalités, il y avait une intense présence réciproque des nations les unes aux autres. Or, aujourd'hui, cette Europe post-hitlérienne ne s'assume pas comme une civilisation, elle se désincarne dans des valeurs, et quelles valeurs essentielles? La tolérance et le respect. Donc le principe de non-discrimination, d'où l'équivalence, et une non-discrimination qui conduit, j'en termine là-dessus, le Conseil de l'Union européenne à recuser toute préséance, tout ascendant de la culture de la société d'accueil, donc de l'Europe en général, cette fois-ci, en disant que l'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les immigrants et résidents des États membres. Donc c'est une Europe quand même qui se vide de sa propre substance et nationale et, je crois aussi, civilisationnelle.
Écoutez, on aborde en très peu de temps énormément de concepts et je suis toujours extrêmement prudente quand on commence à partir sur la civilisation. Deux, trois remarques modestes de députés de base qui ne prétend pas maîtriser tous ces sujets. La première chose, c'est qu'effectivement, vous venez de le dire à l'instant, je voulais l'introduire dans le débat. Quand nous parlons de nations, je crois que nous ne pouvons pas dire que les nations européennes sont ce qu'elles étaient en 1913. Il y a des changements énormes dans la composition sociologique, dans les apports qui sont venus des migrants. Et par exemple, un des exemples extrêmement amusants que j'ai vécu, il se trouve que je suis dans le conseil d'administration de la Fondation de la Nation Allemande, la Deutsche Nationalstiftung. Il y a des débats extrêmement intéressants. Et je me souviens que dans ce cadre-là, d'avoir discuté avec une femme d'origine turque qui demandait si, évidemment, elle devait reprendre l'Holocauste à son compte. Si vous voulez, toutes nos nations sont dans des processus d'évolution. Et je crois que nous commettrions une erreur profonde. Je ne sais pas où nous aboutirons, mais si nous ne disions pas que ce ne sont pas des nations comme quelque chose qui est au frigo, qui est immuable. Il y a une évolution, et vous avez toujours été partisan, comme je le suis d'ailleurs, d'une conception qui est une conception d'adhésion à la nation par adhésion à un certain nombre de valeurs. Ce qui me laisse penser qu'on peut le faire dans d'autres cadres aussi. Première remarque. Deuxième remarque, je suis très frappée que nous passions, il ne s'agit pas de faire du cocorico européen, mais ce qui s'est passé sur ce continent avec la fin de la guerre froide, pour tout un tas de raisons, dont la présence américaine, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est quand même le passage de régimes totalitaires communistes à des démocraties avec leurs qualités, leurs défauts, la nôtre à les siens, de défauts aussi, mais on a quand même toute une partie de ce continent qui est sortie du totalitarisme soviétique ou communiste pour adhérer à un certain nombre de valeurs. Tout ça, bien évidemment, ne fait pas que tous les matins, tout le monde y songe et qu'il y a de quoi s'en satisfaire. Mais ce sont quand même des phénomènes qui sont importants. Personnellement, quand j'avais 20 ans, à l'époque de la guerre froide, j'aurais pas forcément parié que tous ces phénomènes se passeraient de cette manière-là. Donc je pense que la vision extrêmement mélancolique que vous venez à nouveau de décrire peut être juste à certains égards, mais peut-être également un peu exagérée. Je voudrais ensuite dire une dernière petite chose par rapport à ce qu'a dit M. Chevènement auparavant. Vous avez parlé de la base solide et claire de la nation. Écoutez, moi, quand je vois, je vais m'en tenir à la France. Bon, je voyage beaucoup en Europe, donc je pourrais faire des remarques sur l'Italie, sur l'Allemagne, sur d'autres pays. Mais même pour s'en tenir à la France, est-ce que vous trouvez que le débat politique du moment en France, la manière dont le président de la République est attaqué, par exemple, est tout à fait le signe d'une nation qui est solide et claire? Moi, je pense que la contestation des institutions nationales est malheureusement une réalité. Moi, indépendamment de savoir qui est le président de la République, je pense que la figure du président de la République mérite un certain respect. Et que ce respect mutuel, la capacité à un dialogue démocratique mature, nous ne l'observons pas en ce moment en France. Il y a des journaux dont les titres, tous les matins, consistent à taper sur le gouvernement et le président de la République. De même que quand il y avait un gouvernement de droite, une partie de la gauche ne s'en gênait pas. Ça me gêne. Je n'ai pas le sentiment, je ne partage pas, M. Chevènement, votre confiance dans la nation comme berceau naturel d'une certaine harmonie ou du moins d'une... de quelque chose de partagé. J'avais pris l'exemple des députés européens, la manière dont les partis, en ce moment en France, utilisent le Parlement européen pour offrir des prébendes à certaines personnes qui ne le méritent pas, ce n'est pas un signe de maturité de la nation. C'est un signe de gaspillage de notre influence collective. Et personnellement, je suis très pro-européenne, mais très française, et je trouve profondément triste que la France aille si mal. La France est un pays dont les performances économiques ne sont pas très bonnes, mais dont d'autres performances, y compris démocratiques, sont très loin d'être satisfaisantes.
Jean-Pierre Chevènement.
Oui, alors, je ne vais pas contredire Sylvie Goulard sur ce sujet. J'ai été un des premiers à demander qu'on en arrête avec le Hollande bashing au début de l'an dernier, car il nuisait à l'intérêt du pays à force de taper sur le président. Il aurait pu s'appeler Sarkozy. Moi, je ne l'ai jamais attaqué personnellement. Je l'ai toujours attaqué sur sa politique. Il s'appelle aujourd'hui François Hollande et il est élu jusqu'en 2017. Donc, il faut respecter sa fonction. Maintenant, est-ce un signe que la démocratie française ne marche pas? Je pense que on devrait s'interroger peut-être un peu sur les institutions, sur leurs pratiques, mais moins sur la nation. La nation évolue. Vous avez tout à fait raison de le dire, elle n'est jamais la même. Même, je citais Jacques Berck dans une émission précédente avec Alain Finkielkraut, Jacques Berck dit que l'important n'est pas que la nation change. La France a intégré des concepts, des notions, des idées, des expressions venant d'autres pays. L'Italie au XVIe siècle, l'Espagne au XVIIe, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Le monde arabe. Et au fond, ce qui est important, dit Jacques Berck, c'est que la nation reste une personnalité structurée. Et il faut que, en effet, il y ait des structures dans la personnalité. Je suis naturellement contre les discriminations, en principe, comme ça, de premier abord. Mais discrimination, ça peut s'entendre de plusieurs manières. Oui. C'est aussi distinction. Or, moi, je ne suis pas contre les distinctions. Je ne suis pas pour une indifférence généralisée. Il faut savoir marquer des différences, parce qu'il y a des choses qui ne valent pas les autres.
Et d'ailleurs, si on peut marquer des... C'est dès lors qu'on peut marquer des différences que l'enseignement est possible.
Bien entendu.
Dans l'indiscrimination généralisée, il n'y a même plus d'école concevable.
Absolument.
Je ferme cette parenthèse, excusez-moi.
Absolument. Tout se vaut, et par conséquent, je pense qu'il est trop facile de dire que l'Europe, ce sont des valeurs, des normes, des standards que nous diffusons, etc. Non, l'Europe, ça doit être aussi une politique. Mais une politique avisée qui se fera par exemple avec la Russie dans l'affaire de l'Ukraine. On a vu à la fin de l'an dernier un accord d'association avec l'Ukraine qui n'avait pas du tout été concerté avec la Russie. Il y a un partenariat oriental, il y a un partenariat de l'Union européenne avec la Russie, mais ces deux partenariats sont menés séparément les uns des autres, comme si on voulait opposer les uns aux autres. Or, dans l'Europe du XXIe siècle, nous devons non pas rallumer une nouvelle guerre froide, mais au contraire mettre l'accent sur ce qui peut rapprocher les peuples. Et le peuple russe est un peuple européen,
oui, mais alors là, j'en
avec
dire,
une
je...
grande culture.
Mais oui, c'est un peuple européen, mais disant cela, vous vous placez en contradiction avec un certain nombre d'auteurs des pays qui se sont trouvés aux marges de la Russie, polonais ou tchèque, par exemple, ou même roumain. Je pense à Cioran, je pense à Czesław Miłosz dans son livre « Une autre Europe », où il dit non, il y a, et citant Joseph Conrad, parlant de la différence de tempérament entre les uns et les autres, et le cas ukrainien est très intéressant, une partie de l'Ukraine se tourne vers l'Europe pour des raisons politiques, mais aussi civilisationnelles. Et une autre partie se tourne vers la Russie, et le rêve de Poutine, c'est quand même de reconstruire quelque chose comme l'Empire, puisqu'il l'a dit, la destruction de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Donc, si nous prenons en compte ce qui se passe en Ukraine, ça nous amène aussi à nous poser la question de qui nous sommes, et qui nous sommes, qu'est-ce qui nous définit, ou jusqu'où vont nos frontières, et vous intégrer un peu vite la Russie dans
alors,
les frontières de l'Europe.
Permettez-moi de vous répondre.
Jean-Pierre Chevènement.
Se définir, oui, mais pas forcément se définir contre. J'ai connu Cioran, mais je suis loin de reprendre toutes les idées que Cioran a émises. Et je ne reprends pas sans examen toutes les idées qui peuvent être émises dans les pays baltes, en Pologne, en Ukraine. L'Ukraine est elle-même un pays divisé.
Mais oui, c'est ce que
il y a
je
une
dis.
Partie catholique, une iate tournée vers la Pologne et les pays baltes, la Lituanie notamment. Et puis, il y a une partie russophone. Et je dirais que depuis le... XVIIe siècle, la Russie va jusqu'au Dniepr. L'Ukraine a été la première Russie. Et penser que les relations entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas déjà extrêmement étroites. Il y a 80 000 entreprises qui exportent de part et d'autre de la frontière. On veut vraiment substituer l'Union européenne à cette interrelation qui existe. Ça ne peut se faire que très progressivement. Les Ukrainiens qui manifestaient dans la rue évoquaient des sommes mirobolantes que nous serions prêts à déverser sur l'Ukraine. Je crois qu'on a vu ce que donnait le premier élargissement. Nous ne sommes pas prêts du tout pour un deuxième élargissement. Et il me semble qu'il serait raisonnable de poser le problème de l'Ukraine en concertation avec la Russie, qui d'ailleurs vient d'adhérer à l'OMC. Je pense que ça ne devrait pas être un sujet de friction. Quant à Poutine, je sais que l'anti-poutinisme est très à la mode et je ne reprends pas évidemment à mon compte tout ce que dit et fait Vladimir Poutine, mais il a interrompu la chute économique de la Russie qui avait perdu la moitié de son PNB et il lui a redonné une place dans les relations internationales qui est tout à fait estimable. Je ne parlerai pas de nouvel empire, la Russie n'en a pas les moyens. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. La Chine, c'est 1400 millions, 10 fois plus. Raisonnons à l'échelle du siècle. Regardons comment les choses peuvent aller. Et croyez-moi, le développement de la Russie et de ses classes moyennes fera plus pour la démocratie que l'envoi des pèlerins de l'Arctic Sunrise que nous prenons pour des missionnaires pieux.
Mais je ne crois pas qu'il faille être
anti-poutinien. Ou Khodorkovsky pour un défenseur des droits de l'homme, c'est quand même un petit peu plus compliqué.
Oui, mais...
Disons qu'il avait mis la main sur toutes les richesses en hydrocarbures de la Russie dans les années 90. Bon, effectivement, c'est un problème.
Mais non, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas de faire de l'anti-poutinisme, mais je pense que Poutine perpétue une histoire, continue une histoire qui est celle de la Russie, et cette histoire se distingue quand même par beaucoup d'aspects. De l'histoire européenne.
Mais l'URSS a disparu.
Si je peux me permettre juste de dire un mot.
Bien sûr.
Il faut être deux pour danser le tango. Et quand vous dites en gros que l'Europe a été faire un accord avec l'Ukraine sans consulter la Russie, M. Poutine fait aussi sa politique avec l'Ukraine sans nous consulter. C'est la vie internationale. Personnellement, j'ai toujours pris position, y compris dans un livre il y a 10 ans, pour que l'Europe que je souhaite politique et intégrée et des frontières claires, ce qui n'empêche évidemment pas d'avoir d'excellentes relations avec des partenaires stratégiques majeurs que sont la Russie, la Turquie ou d'autres pays. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter de dire que tout le monde a vocation à entrer dans l'Union européenne.
Donc, pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec vous.
J'avais fait un livre, mais un livre qui était fondé sur la défense du projet politique européen. Et je trouve qu'aujourd'hui... nous sommes dans une situation qui est quand même très paradoxale. Parce que moi, j'aurais insisté sur un point qui n'a pas été abordé depuis le début de cette émission. C'est que toutes les manières de faire l'Europe ne se valent pas. Que vous prétendez, M. Chevènement, que l'Europe des nations pourrait fonctionner sans possibilité de surmonter les vétos nationaux, je pense que ça ne peut pas marcher. Encore une fois, je répète, il n'y a pas dans le projet européen la volonté de détruire les nations. Mais il y a un bémol à une conception de la souveraineté traditionnelle, lié à un territoire. Un État, c'était la souveraineté sur un territoire pour une population. Il y a, au XXIe siècle, une question fondamentale qui vous dépasse, qui me dépasse, qui est indépendante de ce que nous voulons ou de ce que nous ne voulons pas, qui est de savoir comment on peut prendre des décisions politiques. Si nous disons à nos enfants que nous pouvons avoir quelque chose qui sera perçu comme l'Europe à l'extérieur, mais qui n'est pas capable de prendre des décisions parce qu'elle est paralysée par des vétos croisés, eh bien, l'Europe n'existera jamais. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec votre Europe des nations, qui est un concept qui n'existe pas. C'est ce que dit François Furet, d'ailleurs. Et j'ai repris cette citation dans mon livre. C'est une vue de l'esprit. C'est très séduisant, mais ça ne marche pas. Et par ailleurs, je ne pense pas que ma qualité de Française soit en danger si je participe à des décisions collectives, à la majorité, et que de temps en temps, je suis dans la minorité. Et là, je crois qu'il faut être honnête vis-à-vis de nos auditeurs. Ce que vous proposez ne marchera pas. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui. D'ailleurs, les problèmes de l'Europe telle qu'elle est sont dus à ces reliquats de souveraineté nationale déplacée. Par exemple, dans la zone euro, quand vous avez le Luxembourg et l'Autriche qui s'opposent à ce qu'on lève le secret bancaire, vous avez deux populations représentant une infime minorité de la population de l'eurozone qui empêchent la zone euro, de se présenter au reste du monde comme un lieu sur lequel il n'y a pas de paradis fiscaux, de recyclage d'argent sale. Et très sincèrement, je n'ai aucune envie de placer la souveraineté nationale au-dessus de la lutte contre le crime organisé. Je prends cet exemple. On peut en prendre dans le domaine environnemental. Expliquez-moi comment des nations souveraines, croisant leurs veto comme les trois mousquetaires croisaient leurs épées, vont arriver à régler la question du changement climatique. Si nous n'avons qu'une organisation politique où les vétos se neutralisent, nous n'aurons pas de gouvernance mondiale.
Jean-Pierre Chevènement.
Deux choses. D'abord, l'Europe, son extension. L'Europe actuelle, ça suffit. Mais si nous voulons raisonner stratégiquement à l'échelle du siècle qui vient, c'est vrai que nous devons compter avec la Russie, avec l'Ukraine, avec la Turquie, avec les pays du Maghreb. Et par conséquent,
dans un partenariat, pas dans une...
Dans un partenariat, mais je pense qu'il faut aller vers cette Europe des nations qui ne suffit pas de citer François Fury pour la disqualifier. C'est le général de Gaulle qui parlait de l'Europe des nations parce que les nations sont la brique de base de la démocratie, par conséquent de la volonté politique. Et en se mettant d'accord sur des sujets importants, que j'ai déjà rappelé tout à l'heure, la monnaie, l'industrie, l'énergie.
Mais pardon, comment vous décidez en matière de monnaie si vous avez...
Eh bien, prenons les institutions européennes.
Donnez un exemple concret.
Le Conseil européen est un conseil qui peut siéger à géométrie variable. Le Conseil européen est une instance qui marche encore. C'est la seule.
Ah, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est probablement la source première de nos problèmes en Europe en ce moment.
Alors, justement pas. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que dans le Conseil européen, il y a les représentants légitimes des nations, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement. Je regarde la Commission, 28 commissaires, chacun désigné...
Attendez, restons sur le Conseil européen. Chacun est légitime.
Non, mais parlons de toutes les institutions européennes.
Non, mais prenons le Conseil européen. Le Conseil européen sont les réunions intermittentes des chefs d'État et de gouvernement, chacun étant parfaitement légitime dans son pays, vous avez raison. Mais quand le Conseil européen prend une décision, par exemple, concernant la Grèce, et que les pays créditeurs au sein du Conseil européen sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc., quelle est la voix du représentant de la Grèce ? En quoi ça vous semble véritablement un bon mode de fonctionnement pour prendre des décisions sur la Grèce ?
Le problème que vous posez, madame, est un problème...
L'émission va bientôt se terminer. Hein.
Est un problème qui est celui de la monnaie unique, qui était dès le départ un contresens, parce qu'on a fait la monnaie unique en dehors des nations et même contre elles. On pensait que le moment venu, elle ferait le grand saut fédéral. Aussi absurde que le saut dans le noir... Que prétendait
ça, je n'aime pas votre comparaison.
Bettmann Holweg.
Non, je regrette. Alors là, dans votre livre, j'ai été très choquée.
Le saut dans le noir, c'était la guerre de 14.
Voilà. Le saut dans le noir, c'est la guerre de 14.
Eh bien,
vous comparez le déclenchement d'une guerre avec l'adoption de nouvelles règles d'organisation politique.
Ne concluons
politique.
Pas sur votre colère, mais concluons sur une idée raisonnable. Hein. La monnaie unique ne peut pas marcher. Parce que, juxtaposant des économies hétérogènes, elle accroît la richesse à un pôle et le sous-développement à l'autre. Il faut donc trouver une issue, soit que l'Allemagne joue son rôle de locomotive, soit que la banque centrale devienne une banque centrale comme les autres, soit qu'on aille vers un système de monnaie commune qui permettrait des ajustements beaucoup moins douloureux que la déflation interne à laquelle on soumet par une procédure disciplinaire les pays
le
déficitaires,
Conseil européen les y soumet, oui,
c'est-à-dire les pays de l'Europe du Sud. Alors ne mélangeons pas les politiques et les institutions. Je dis qu'il y a une institution qui marche encore, alors que tous les autres cafouille dans l'Europe à 28. C'est un magma d'impuissance conjuguée. Nous ne sommes pas taillés pour résister à la compétition mondiale dans l'Europe telle qu'elle a été construite.
Pour ma part, je pense qu'on peut la modifier et que nous sommes à un stade intermédiaire et que si nous nous en donnons les moyens, si nous mettons de la démocratie au niveau auquel il faut la mettre, au lieu justement de nous contenter du bricolage du Conseil européen, l'Europe a de beaux jours devant elle.
Bien, merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement, merci Sylvie Goulard pour cette très belle discussion. Alors, je rappelle les titres de vos livres, deux essais importants, Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014, L'Europe sortie de l'histoire, aux éditions Fayard, Sylvie Goulard, Europe, amour ou chambre à part, chez Flammarion. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Scène de la vie conjugale ». Mes invités seront Yasmina Reza et Emmanuel Pagano. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Nathalie Salles. À la technique aujourd'hui, Lidvine Caron. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.